Canalem, on aime l'été.
Emmanuel Robitaille. Alors, cette semaine, à l'émission, hey, on a...
En fait, je vais me
On a des blancs. Hey, on est vendredi.
Je vais
me
représenter parce que... En tout cas, je sais pas si on m'a...
Je pense qu'on m'a pas entendu.
Alors, bonjour tout le monde. C'est Christiane. Je vous dis bonjour.
Je ne suis pas seule. Ne me laisse pas. On est vendredi, le 17 août 2018.
Aujourd'hui à l'émission, Emmanuel, tu nous donnes des nouvelles de la Terre.
Oui.
Et on va parler à Julie Lapointe qui pédalera 3000 km en moins de 20 jours pour soutenir la cause de la prévention du
cible. On va découvrir le musée Pop et la vieille prison de Trois-Rivières. On sort également au Québec avec Maxime Despomerleau et au Yukon avec Hélène Michaud.
Et on va sortir des sentiers battus en musique traditionnelle en compagnie de Marc Bolduc, l'animateur de l'émission Tradosphère.
Bienvenue à Aime l'été.
Ça fait de beau houhou en studio, n'est-ce pas, Emmanuel?
J'étais un peu dans la toune, je vais l'avouer.
C'était les fruits défendus, hein, c'était au pluriel, chanté par, évidemment, Brigitte Boisjoli. À vous, les filles.
Emmanuel, aujourd'hui, tu nous donnes des nouvelles de la Terre. On commence, d'ailleurs, avec des nouvelles qui nous amènent sous terre.
Effectivement, on va se promener un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus, un petit peu dedans, un petit peu autour. Écoute, on verra. Mais oui, je vous parle de notre Terre. Il y a vraiment des découvertes fascinantes qui ont été faites dans les dernières semaines, les derniers mois concernant notre belle planète bleue. Et on les évoque aujourd'hui, on en parle. En commençant par un océan géant qui a été découvert près du noyau de la Terre. Donc, on se comprend bien qu'il y a un océan gigantesque dedans la Terre.
Oui, oui.
OK? C'est pris à l'intérieur d'un rocher bleu qui s'appelle le Ringwoodit, qui se situe à pas moins de 700 km à l'intérieur du manteau de la Terre. Ce qui n'est pas nécessairement à porte, on va se le dire.
On n'est pas prêt d'aller à la plage.
Non. Non, ce n'est pas. On n'est pas sur le bord d'être sur le bord de cette étendue d'eau, nécessairement. Non. Mais fait intéressant, la grosseur du réservoir pourrait expliquer l'origine de l'eau sur la Terre. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que jusqu'ici, il y a certains géologues, en fait, les géologues croyaient que l'eau était contenue dans des comètes qui frappaient la Terre. Mais les découvertes récentes indiquent que celle-ci serait formée à partir de l'intérieur de la Terre. Et cette plaque d'eau-là, interne, pourrait aussi servir de... Hey, excusez mon anglais, mais je pense qu'il n'y a pas meilleur mot. Pourrait servir de buffer. C'est un buffer.
De zone tampon.
Là. De tampon. Exactement. De tampon pour les océans à la surface, ce qui expliquerait pourquoi ils sont restés de la même taille pendant des millions d'années. On a d'ailleurs étudié les mouvements de l'eau et des vagues avec un séismomètre et on se rend compte que les mouvements enregistrés dans l'océan souterrain, ils sont mesurables à la surface et même que l'eau de cette source intraterrestre, parce que finalement, c'est une source intraterrestre,
absolument,
serait amenée à la surface par des mouvements des plaques tectoniques. D'ailleurs, on est en train d'évaluer combien d'eau serait en cycle à travers ce processus-là, parce qu'il semble qu'il y a un mouvement qui se fait là. Mais on est en train de prétendre qu'il pourrait s'agir de 3 fois la qualité d'eau de nos, la quantité d'eau de nos océans à la surface. Donc, il y aurait 3 fois plus d'eau à l'intérieur de la Terre que sur la Terre. Moi, en tout cas, je m'y en attendais pas.
Absolument pas. Et là, en plus de l'eau, on trouverait aussi des diamants.
C'est... Hein? Fait que, tu sais, des fois, on ne sait pas ce qui se trouve sous nos pieds, chers amis. Ben effectivement pas. Il y a des tonnes de diamants qui ont été découverts dans la croûte terrestre profonde. Croûte terrestre profonde. On est vendredi, on a parlé beaucoup cette semaine. C'est pas facile. Oui, ce sont les ondes sonores qui révèlent la présence d'un tel amas de diamants qui se situe à pas moins de 161 km à l'intérieur de la croûte terrestre. C'est dans la racine cratonique qu'on les retrouve. Je ne savais pas ce qu'était une racine cratonique.
Moi non plus, je l'avoue.
Mais c'est la partie la plus stable et la moins mouvante de toute la lithosphère, finalement. Et en fait, ces racines cratoniques-là seraient eux-mêmes constituées de 1 à 2 % de diamants. Ça peut paraître très peu, mais considérant la proportion du poids des racines cratoniques en fonction de la Terre, ça représente pas moins d'un quatrillion de tonnes. C'est quoi un quatrillion? C'est 10 exposant 16. Ça, c'est 16 zéros au bout. Ça, c'est des nombre de tonnes. Ça, c'est beaucoup de tonnes.
Oui, oui, en effet. Et puis, c'est beaucoup de bagues.
C'est beaucoup de bagues, mais pour ceux qui étaient à l'écoute cet été, je ne me rappelle plus exactement quand j'en ai parlé, mais je me demande si c'était pas avec toi, Christiane, où j'avais parlé rapidement à quel point la valeur du diamant était absolument faussée et qu'elle avait été une propagande, une tentative de la compagnie diamantaire De Beer dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale qui nous a fait à croire que le diamant valait quelque chose. Donc, ne soyez pas tristes de ne pas pouvoir aller puiser à cette source de diamant. Ça vaut rien, de toute façon.
À la quantité qu'il semble y avoir, ça ferait baisser le prix aussi.
Et la rareté, c'est terminé. Donc, t'as tout compris. Exactement. Donc, ça sert absolument à rien, finalement.
Hein? Bon, maintenant, l'origine de l'oxygène.
Bien, ça, c'est fascinant. Ben, je trouve... J'ai la fascination facile, on va se le dire, mais quand même! L'oxygène sur Terre a une origine d'un milliard d'années plus ancienne qu'on le pensait. L'oxygène sur Terre serait arrivé 1 milliard d'années plus tôt qu'on le pensait auparavant, ce qui est... T'sais, on se trompe pas de 100 ans, de 1000 ans ou de 10 000 ans, d'un million ou de 100 millions d'années, là. C'est oui. 1 milliard d'années, là. Sans, du coup, on n'était pas proche. Et on pourrait se dire, OK, mais quand même, c'est quoi... qu'est-ce que ça peut changer? Bien, en fait, ça a tout un lien avec les formes de vie sur Terre parce que l'oxygène dans l'atmosphère de la Terre provient des formes de vie. Plus précisément, des anciens microbes qui ont produit de l'oxygène par la photosynthèse. En fait, c'est ce que les chercheurs ont découvert après ma barre, l'ancien microbe appelé cyanobactéries. Mais c'est cette photosynthèse-là qui est survenue 1 milliard d'années plus tôt qu'on pensait, ça au tout début, avant même cette forme de microbactéries-là. Donc, on parle d'une forme de vie très, très de base. Et ça serait il y a 3,4 milliards d'années. Et ça, c'est bien avant que l'oxygène, comme on la connaît, ou encore la cyanobactérie existe. Ce qu'on pense qui est arrivé, c'est qu'il y a des anciennes bactéries qui ont produit de l'oxygène libre. Mais de l'oxygène libre, ça ne se combine pas avec du carbone ou du nitrogène. Ça se met à réagir quand ça entre en contact avec des éléments chimiques comme du sulfure ou du fer. Donc, c'est rentré en contact avec nos fonds marins et puis à l'intérieur de la Terre. Et ça a pris jusqu'à 2,4 milliards d'années où là, ça a pris une expansion et ça a augmenté de 10 000 fois plus concentré en 200 millions d'années seulement, ce qui correspond à l'événement qu'on appelle la grande oxydation et qui a complètement changé toutes les réactions chimiques à la surface de la Terre. Et au même moment, l'oxygène libre qui s'accumulait dans nos océans, les océans se sont saturés, puis ça a monté dans l'atmosphère, puis là, il y a eu de la vraie oxygène. C'est pas beau, ça?
Bien, c'est très beau. Alors, c'était Emmanuel
et on respire.
Qui nous apprenait plein de nouvelles choses au sujet de la Terre.
Ce soir, la noirceur dévore les rideaux. Les oiseaux de malheur chantent tout haut, perché sur ton dos. Une femme en pleurs, couchée près de son bien-aimé. Son odeur restera sur l'oreiller. Au dernier battement de cœur, oh mon amour, je travaille fort. Chaque jour à déjouer le sort. Le lendemain, c'est juste un mot. Demande rien, c'est déjà ce soir. La lune semble en savoir trop. La brume est trop lourde, elle brise les eaux. C'est la vie qui veut ta peau. Une petite fleur a défié tous les grands vents, mais qui s'affaissera sous le poids du temps, le plus habile des tueurs. Oh mon amour, je travaille fort, chaque jour à déjouer le sort. Le lendemain, c'est juste un mot, demande rien, c'est chaque jour à déjouer le sort. On connaît la fin de l'histoire. Oh mon amour, je travaille fort. Chaque jour à le lendemain, c'est juste un mot. Demande rien, c'est déjà trop. Oh mon amour, je travaille fort. Chaque jour à déjouer le sort. Le lendemain, c'est juste un mot. Demande rien, c'est déjà trop. Chaque jour à déjouer le sort.
Ah, magnifique mélodie de Babin au pluriel qui s'appelait anciennement 8 Babins.
Et nous, on s'apprête à parler à Julie Lapointe qui pédalera 3000 km en moins de 20 jours à afin de soutenir la cause de la prévention du suicide. Elle le fait en mémoire de son conjoint qui a mis fin à ses jours en 2014. Et son but, c'est de parler du suicide et de prévention, mais aussi de donner au suivant. Alors, bonjour, Julie Lapointe.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui, ça va bien.
Oui, tout d'abord, pour préciser, là, le périple, il a lieu quand exactement?
Le périple a déjà eu lieu.
Ah, OK, c'est ça.
Oui, c'est ça. On a fait notre première section. On est parti le 10 juillet. Donc, et on est monté à Terre-Neuve en 18 jours, à Saint-Jean-Terre-Neuve. On a fait en moyenne 180 km par jour pendant 18 jours pour atteindre le Saint-Jean-Terre-Neuve, où c'était le kilomètre zéro de la Transcanadienne.
D'accord. Il faut être vraiment en forme pour faire ce genre de trajet-là?
Oui, il faut avoir une bonne endurance, mais on prend des vitesses qui sont raisonnables, donc ça va assez bien, mais il faut surtout avoir de la résistance pour des efforts à long terme.
Et surtout, il faut une sacrée motivation. Et parlez-nous un peu là, de ce qui vous a poussé à vous lancer dans ce périple.
Bien, mon conjoint était une personne qui était très bonne, chercheur pharmaceutique qui a créé des médicaments pour le cancer, l'Alzheimer, le sida. Donc, il était reconnu au point de vue en Europe, au Québec, aux États-Unis, au Canada. Et c'était une personne très bonne. Donc, j'aurais jamais pu penser que le suicide aurait pu toucher une personne comme soi, comme ça de mon entourage. Mm-hmm. Et malheureusement, il s'est blessé au dos. Ça a créé un débalancement chimique. Et il s'est retrouvé en dépression très rapidement. Et malheureusement, il a décidé de mettre fin à ses jours. Donc, moi, c'est toujours un coup qui est très dur dans ma vie. J'ai encore de la difficulté à vivre avec ça. Mais je me disais, c'est une personne qui est tellement bonne, qu'il donnait tout le temps au suivant. Il était toujours en train d'aider tout le monde, tout le temps. C'était son but dans sa vie. Alors, je me suis dit qu'il fallait pas que sa mort soit inutile. Donc, j'ai décidé, en son honneur, en son hommage pour sa famille, ses enfants, moi, de pouvoir donner au suivant et d'honorer sa mémoire dans l'essence qu'il était. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire une levée de fonds pour un organisme qui s'appelle Le Tournant, qui s'occupe de la prévention du suicide. Et malheureusement, nous ne connaissions absolument pas les services qui étaient offerts dans notre région. Donc, quand il est tombé en dépression des suites de sa blessure, on a essayé de trouver de l'aide, mais malheureusement, l'aide, c'était trop long, les délais d'attente, et il n'a pas survécu jusqu'à ce temps-là. Alors, moi, je trouvais ça important que pour prévenir d'autres suicides comme ça, il faut trouver de l'aide. Et pour trouver de l'aide, il faut en parler. Puis il faut leur donner les fonds aussi pour donner les services nécessaires.
Est-ce qu'on comprend dans l'histoire qui est la vôtre, c'est que votre mari, c'était quelqu'un qui avait des ambitions, qui a fait beaucoup de choses, qui a donné énormément, qui avait beaucoup de positif autour de lui. Imaginons tous ces gens qui n'ont pas ça à quoi s'accrocher. Le suicide, c'est pas quelque chose qu'on peut prédire à ce moment-là et qui peut toucher n'importe qui. Et encore en 2018, c'est tabou.
Oui, tout à fait. Le suicide est encore tabou et ça peut toucher tout le monde. On ne sait jamais quand est-ce que ça peut toucher qui que ce soit. Donc, c'est pour ça que si on connaît les services d'avance, au moins quand on vit un traumatisme, à ce moment-là, on peut chercher de l'aide rapidement. Mais effectivement, c'est tabou. Les gens ne veulent pas en parler. C'est sûr qu'un suicide, c'est quand même violent. Puis aussi, les gens, ils ne savent pas comment interagir avec nous. Ils ne savent pas quoi nous dire. Mais il n'y a pas besoin de rien dire. Nous coller dans nos bras, nous serrer fort. Il n'y a pas de mots pour apaiser notre douleur, mm-hmm. mais nous sentir soutenus, c'est ça qu'il faut faire. Donc, c'est sûr qu'il y a du préjugé, du jugement, mais aussi il y a une incapacité à savoir quoi faire et quoi dire. Alors, plus on en parle, plus les gens vont être capables de dealer avec des endeuillés du suicide. Et aussi, le tournant offre des groupes d'endeuillés du suicide qui aident beaucoup les survivants de quelqu'un qui s'est suicidé autour à passer à travers.
C'est ça, quand on parle de soutien et de ressources, on parle des deux moments. On parle de ressources pour prévenir le suicide, mais si malheureusement il y a lieu, on parle aussi de ressources pour ceux qui restent.
Oui, tout à fait. Le tournant, eux, offre, puis les centres de chacune des régions, en général, vont offrir des suivis individuels. Si on a de la difficulté, on peut leur demander, ils offrent des suivis individuels pour nous aider à trouver les outils sur le coup pour nous en sortir. Ils vont aussi offrir Donc, moi, je suis inquiète pour telle personne qui est avec plein d'affaires, puis je suis inquiète pour sa santé mentale, j'ai peur qu'il se suicide. J'appelle au tournant ou j'appelle dans l'organisme de ma région et ils vont faire des relances, ils vont appeler la personne, ils vont se rendre sur les lieux pour essayer d'éviter de passer au pire. Il y a aussi des groupes, comme je disais, d'endeuillés du suicide. Donc, on se rencontre ensemble pendant 12 semaines et on peut parler sans jugement du suicide avec toutes des gens qui ont passé à travers ça. Donc, ça soutient beaucoup. Et c'est ça. Puis, ces soutiens-là vont faire qu'on réussit un peu plus à passer au travers parce qu'on se sent un petit peu plus normal dans notre deuil.
Si on revient à votre levée de fonds, jusqu'ici, quelle somme a été amassée?
Je pense on est entre 25 et 30 000 $. Notre objectif est de 50 000. Et si on veut donner, il y a l'organisme Le Tournant, comme je vous disais, qui est l'organisme pour lequel on parraine, qui est dans ma région, qui couvre un très grand territoire. Et il y a letournant.org qui est le site. Puis sous événement, on peut faire des dons. Et ou si on peut aller, si jamais vous voulez voir le périple qu'on a fait jusqu'à Terre-Neuve, il y a sur Facebook, prévenir le suicide un kilomètre à la fois. Là, on a toutes les posts qu'on a faites à tous les jours et un peu, on a beaucoup de photos du périple, ce qui est quand même vraiment bon. Puis la dernière chose, c'est que si jamais vous avez des détresses, il y a toujours une ligne d'écoute, comme à Le Tournant, il y a une ligne d'écoute 24 heures sur 24, c'est 1-866-APPEL, donc 1-866-APPEL, 2-P-2-L. Ça, vraiment, c'est une ressource qui est offerte 365 jours par année. Donc, c'est vraiment important.
Puis, on va mettre toutes ces ressources-là sur notre site web, sur la publication qui vient avec l'émission d'aujourd'hui. Il y a aussi un événement qui s'en vient le 9 septembre.
Oui, exactement. Le 8 et le 9 septembre, nous, notre région qui est couverte, c'est le Haut-Saint-Laurent et la région du Suroît. Donc, on va faire deux événements. On fait du vélo le samedi et on fait du vélo le dimanche. On va faire 365 km, mais il va y avoir des parcours de 25, de 50, de 100 km d'affaires pour les 365 jours de l'année qui sont en demande pour la prévention du suicide. Et ça se termine le dimanche à 15h. Il y a un cocktail dînatoire. Donc, c'est plein de petites bouchées faites au domaine de la Templerie à Dudley-Manchester. Puis, c'est vraiment ça qui va clore la levée de fonds. Bien, les gens peuvent donner par la suite aussi, mais c'est ça qui va vraiment clore la levée de fonds pour la prévention du suicide dans la mémoire de Daniel Delorme. Et on peut encore une fois sur le site letournant.org, sur les événements, on va voir les détails, puis on a un petit bouton pour les dons, puis on peut acheter nos billets là aussi.
Mm-hmm. Pour la partie cycliste, est-ce que vous cherchez encore des participants?
Oui, on cherche toujours des participants. Il n'y a même pas de coût, autant le samedi que le dimanche, il n'y aura pas de coût pour la randonnée en tant que telle, à moins que quelqu'un veuille faire des dons. C'est juste pour faire parler du suicide. Puis le dimanche, le cocktail dînatoire, c'est 50 $, puis la nourriture est vraiment excellente en passant. Et là, c'est ça qui va. Il y a 30 $ de dons à chacun des billets qui se vend. Mais pour le vélo, tout le monde est invité. Il va y avoir des trajets pour tout le monde, des distances pour tout le monde.
Oui, parce que c'est pas tout le monde qui peut faire 175 km par jour. Ça peut faire un peu peur.
Exactement. Il va y avoir des trajets de 25, de 50, 75. Tous les temps vont être là.
OK.
Puis ça, c'est sur le site Prévenir le suicide, un kilomètre à la fois, les détails vont être là. Il y a le site Le Tournant aussi sur Facebook. Puis il va être sur letournant.org. Tous les détails vont être là. Ça va être sorti dans la prochaine semaine.
Et le grand périple là, jusqu'à Terre-Neuve, est-ce que c'est une expérience que vous comptez renouveler?
Bien, j'avoue que c'était quand même un très brillant périple. C'est très intense. Mais c'est surtout que c'est beaucoup d'organisation parce qu'on avait motorisé qui nous suivait. On avait Marielle et Gilles qui nous ont traités comme des petits rois et qui nous ont fait la cuisine. Le coucher était là-bas. Donc, c'est une très grande organisation qui n'est pas facile. Donc, il faut trouver des bénévoles pour nous accompagner. Ils ont fait ça bénévolement. Il faut trouver les motorisés, etc. Mais faire des longues distances, moi, j'aime bien. Là. C'est sûr que chacun faisait ce qu'il était. Il y a des journées où on file moins. Donc, chacun des gens faisait ce qu'il pouvait. Puis si jamais il ne faisait pas toute la journée, il n'y avait aucun problème là-dessus. Là. Mais c'était vraiment une belle expérience. C'était extraordinaire. Tous les gens de l'équipe, on était 6, parlaient du suicide autour d'eux. On a fait parler du suicide, on a eu des articles dans les journaux, on a eu des articles télévisés avec Radio-Canada. Et les gens nous ont déjà dit, après notre passage, qu'ils avaient reçu beaucoup plus d'appels que d'habitude. J'ai reçu des courriels, des Facebook, là, des messages Facebook de gens qui disaient « OK, ben moi, je suis dans telle région, c'est quoi les ressources? Je suis inquiète pour quelqu'un. » C'est fou. Je peux vous dire, là, mon émission est accomplie. Je vois déjà que j'ai changé des vies. On en a parlé partout autour, puis tout le monde connaissait quelqu'un. En tout cas, ça a vraiment très, très bien fonctionné. C'est extraordinaire au point de vue espérance humaine. C'est extraordinaire.
Bien, bravo et merci beaucoup, Julie Lapointe. On rappelle que sur le Facebook, pas sur le Facebook, mais il y aura un lien vers cet article-là sur le Facebook, sur le site web de Canalem. On mettra tous les renseignements, autant les ressources si vous avez besoin d'aide que les renseignements si vous voulez contribuer. Merci beaucoup, Mme Lapointe.
Merci à vous.
Bonne continuité, au revoir.
Merci, au revoir.
J'ai un petit appel à faire. Il y a un producteur télé, je ne peux pas vous dire qui. En fait, je ne sais même pas moi-même là, parce que c'est au stade embryonnaire. Mais on recherche des candidats pour un projet télé. Et je vous lis carrément le message qu'on m'a envoyé pour une série documentaire à la télévision. Nous sommes à la recherche de personnes autistes, trisomiques et non-voyantes de naissance ou à la suite d'un accident ou d'une maladie. Il s'agit d'une série qui présente différentes personnes avec différents handicaps ou conditions et qui acceptent de répondre aux questions provenant du public de façon spontanée, avec humour, sens de la répartie et émotion, dans le but de briser les préjugés liés à leur handicap, raconter des anecdotes drôles ou touchantes et en connaître davantage sur la vie et les défis des personnes handicapées. Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur candidature en incluant nom, âge, handicap et numéro de téléphone à Monique Guilbault, G-U-I-L-B-A-U-L-T, en un mot, @gmail.com. Mais j'ai aussi fait une publication Facebook avec cette annonce ce matin sur la page de Canalem. Alors, vous pourrez aller trouver le courriel.
On peut se rendre sur le Canalem, sur le Facebook, Canalem, Vues et Voix.
Oui, et on va trouver cette annonce-là et le courriel de Mme Guilbault.
Il y a le Narcity qui nous offrait une liste de 10 road trips à faire au Québec que je trouvais absolument intéressante. Je suis une fan de road trip. J'ai pris les 5 qui me semblaient les plus trippants. Et maintenant que les vacances de la construction sont terminées et que l'essence est supposée baisser un peu, je pense qu'on peut commencer à y passer pour les vacances, ceux qui ont encore du temps. On parle de la route des baleines d'abord, de Tadoussac à Blanc-Sablon. Ensuite, le tour de la Gaspésie via la 132, les cantons de l'Est, également, la route du fleuve qui relie Baie-Saint-Paul et la Malbaie, et finalement la route de la Baie-James qui est de 620 km des plus isolés de la province et qui commence à Matagami et qui se rend jusqu'à la Baie-James.
Vous écoutez Aime l'été.
Rebonjour tout le monde, vous êtes toujours à l'écoute de Aime l'été en ce 17 août avec Christiane Campagna et Emmanuel Robitaille. Et durant la prochaine demi-heure, on va notamment parler à quelqu'un du musée pop qu'on connaissait avant sur le Non, je ne me lancerai pas dans le nom parce que je ne l'ai pas écrit. Puis si j'essaie de m'en souvenir par cœur, je risque de dire n'importe quoi. On va aussi découvrir la vieille prison de Trois-Rivières. Et on parlera aussi à Maxime Despomerleau, qui va nous faire des suggestions de sortie. Tout ça aujourd'hui à Aime l'été.
Accidentelle, la pilule ou la querelle, tu l'as. ces chandelles. C'est risqué de te convaincre, j'aurai ton enfant quand même.
J'aurai ton enfant quand même, une chanson de Sally Falk. Vous aurez compris que c'est un clin d'œil au collègue Jean-Sébastien Laliberté, dont la conjointe devrait expulser là, d'une minute à l'autre.
Que c'est dit poétiquement. Expulser. Quel bon choix de verbe, Jean-François. Alors, ben, l'été n'est pas terminé. On vous suggère encore des sorties touristiques pour tous. Et aujourd'hui, on vous amène du côté de Trois-Rivières. On va parler avec Claire Plourde, qui est responsable des communications et du développement des publics au Musée Pop et la vieille prison de Trois-Rivières. Bonjour, Mme Plourde.
Bonjour.
Ça va bien?
Eh bien, ça va très bien.
Il y a beaucoup de monde ces temps-ci chez vous?
Oui.
Vous êtes populaire?
Effectivement, c'est très populaire.
Parlez-nous un peu, tout d'abord, le Musée Pop, c'est un nouveau nom.
Oui, c'est le nouveau nom du Musée québécois de culture populaire. On a voulu raccourcir le nom, le rendre plus facile à retenir, puis le dynamiser un peu. Donc, Musée Pop, on s'en rappelle plus facilement.
C'est donc un musée qui est dédié, juste comme l'ancien nom le disait, à notre culture populaire. Quel genre d'exposition est-ce qu'on y trouve?
Actuellement, on a toujours plusieurs expositions en même temps. Notre nouveauté de l'été, c'est une exposition sur l'aventure de la bière au Québec. Donc, on parle de l'histoire de la bière, mais à partir du début de la colonie, on se rend jusqu'à l'effervescence des microbrasseries. Mais on parle aussi, évidemment, de la pièce de théâtre Brou. Donc, ça, c'est notre... Oui, incontournable. Quand on parle de bière et de taverne au Québec, on a même recréé une taverne des années 70 dans la salle d'exposition. Fait que c'est vraiment à voir cet été. Puis on a aussi une exposition sur la bande dessinée québécoise. On s'attend pas à ce que la bande dessinée soit aussi reconnue à l'étranger, la bande dessinée québécoise, mais on fait aussi, on voit les différentes étapes de création des bandes dessinées. Mais ce qu'on voit comme artefact, c'est les outils qu'ont utilisés ou les planches à dessin qu'ont utilisés les BDistes. On a une vingtaine de BDistes qui ont collaboré à cette exposition-là. On a aussi une exposition sur des sculptures du duo Viateau-Bertium inspirées de l'univers de Boucard Diouf. Ce sont vraiment des petits bijoux de sculpture à voir. Et une exposition sur les 50 ans du Festival Western de Saint-Tite. Le festival a fêté ses 50 ans l'an dernier. Donc, c'est comme une exposition hommage à ce festival-là qui attire des centaines de milliers de visiteurs à chaque année dans leur petit village de la Mauricie.
Donc, c'est un peu un musée qui est dédié à parler de l'histoire de choses qui font partie vraiment de notre quotidien ou qui ont fait partie du quotidien du passé, des savoir-faire, des choses comme ça?
C'est ça. C'est la mission du musée qui est de faire découvrir la société québécoise, nos façons d'être et de faire, effectivement.
Et vient avec ça un autre bâtiment très impressionnant qui est la vieille prison de Trois-Rivières.
Oui, dans le même complexe muséal, c'est-à-dire juste à côté du bâtiment principal du musée, il y a la vieille prison de Trois-Rivières et on gère les deux attractions avec la même administration. Et la vieille prison de Trois-Rivières date de 1822. Elle a fermé ses portes en 1986 pour insalubrité. Et on en fait des visites guidées qui parlent de la vie en prison. Comment ça se passait, la vie dans cette prison-là, alors qu'il était prévu pour 40 détenus, qu'il en a accueilli jusqu'à une centaine à certaines époques. Donc, vraiment, là, les conditions de détention qu'il y avait là, il y a des cachots dans le sous-sol. C'est vraiment digne du Moyen-Âge. Les gens vont être étonnés de voir que ces conditions de détention-là ont perduré jusqu'en 1987. Là.
Et donc, toute l'exposition porte vraiment sur la vie carcérale.
Mais c'est une visite des lieux.
Bon,
c'est
voilà.
Une visite des lieux. Il y a 3 étages qui ont été conservés comme c'était quand ça fermait ses portes en 86. C'est sûr qu'on l'a mis aux normes là, pour les visites et tout ça. Là. Les souris sont plus présentes, n'y sont plus, les rats non plus.
Vous me rassurez.
Mais, et les odeurs aussi. Mais vous pouvez vraiment voir là, dans quel milieu vivaient les détenus à cette prison-là.
Au-delà des expositions, quels sont les types d'activités qu'on peut faire aussi quand on va chez vous?
Bien, c'est sûr qu'il y a des visites guidées qu'on fait de l'exposition, entre autres, sur la bière. On a des visites guidées. Il y a différentes activités, comme à l'automne, on fait dans la vieille prison ce qu'on appelle le parcours de peur. Donc, c'est une heure de peur en soirée au mois d'octobre et novembre. On est à veille d'ouvrir la billetterie pour ça, là. Donc, ça attire toujours beaucoup de... c'est 16 ans et plus, donc il faut vraiment avoir le courage d'aller passer à travers cette heure de peur-là. Et pour les plus jeunes, pour les familles, on fait aussi une activité pour l'Halloween là, dans la vieille prison. Mais on a toutes sortes d'activités à l'année. Là. Durant la semaine de relâche, on fait des activités spéciales. Il y a des thématiques de développer à chaque année. Donc, et on a des activités pour les familles aussi durant les fins de semaine.
Donc, c'est ça. Il y a aussi des activités reliées, aux différentes expositions temporaires qui sont en place.
Oui, tout à fait.
Et si on veut aller vous visiter, votre horaire?
Actuellement et jusqu'à la fête du travail, on est ouvert tous les jours de 10h à 18h. Et après la fête du travail, là, on tombe en horaire plus réduit, donc du mercredi au vendredi de 10h à 16h et les fins de semaine de 10h à 17h.
Nous, ici, on s'adresse notamment à des publics qui sont en situation de handicap. Est-ce que les deux musées sont accessibles aux fauteuils roulants?
Le musée Pop est entièrement accessible. Il y a des petites corrections à faire, mais c'est vraiment mineur. Là, c'est vraiment accessible. Les expositions sont conçues pour les personnes à mobilité réduite. Du côté de la prison, ben on comprend que c'est un bâtiment de 1822, donc on peut pas. Puis c'est un bâtiment classé monument historique, donc on peut pas faire les aménagements qu'on veut dans ce bâtiment-là. Fait qu'il y a certaines pièces, certaines cellules qui ne sont pas accessibles. Par contre, on reçoit des gens en fauteuil roulant, puis il y a un monte-charge pour monter à l'étage. Il y a les cachots qui, évidemment, sont pas accessibles parce que le monte-charge ne se rend pas là, mais on peut quand même faire une visite intéressante parce qu'on parle de la vie carcérale, donc les gens en fauteuil roulant peuvent quand même accéder à l'entrée de la cellule et voir comment ça se passait, là, mais ça circule quand même si les accès sont limités pour certains endroits, là.
Et comme on le disait tout à l'heure, il y a des visites qui sont guidées pour les personnes qui, par exemple, seraient non-voyantes.
Pour la visite de la vieille prison, c'est toujours guidé. Il n'y a que des visites guidées dans la vieille prison. Du côté du musée, c'est des visites libres, sauf des visites prévues au cadran durant la saison estivale et la semaine de relâche.
Et sinon, on vient accompagner parce que vous acceptez la vignette d'accompagnement.
Tout à fait, oui.
Alors, où est-ce qu'on va si on veut se renseigner?
Museepop.ca.
Voilà, hey, c'est vrai que c'est pratique avec son numéro.
Museepop.ca. Merci, bonsoir.
Alors, on vous invite à aller faire un tour du côté de Trois-Rivières. Moi, je compte en tout cas y aller prochainement.
Et je rajouterais peut-être une petite information.
Allez-y.
La visite de la prison, les visites régulières, c'est pour les 12 ans et plus. Durant la saison estivale et la semaine de relâche, on fait des visites familiales pour les 8 à 11 ans. Mais sinon, là, c'est 12 ans et plus.
D'accord. Je vous remercie beaucoup, Mme Plourde. On
va
aller vous voir.
Vous êtes les bienvenus.
dans mon angle mort.
Philippe Braque nous chantait Christelle.
Et ce n'est pas Christelle qui est au téléphone, non, c'est Maxime Pomerleau. Salut Maxime!
Bonjour les filles, comment ça va?
Juste pour te dire, parce que j'ai entendu dire que tu différenciais pas nos voix à moi et à Christiane, c'est Emmanuel qui te parle présentement.
C'est ça, c'était la première émission, je vous ai vraiment confondue, mais c'est après vrai. J'ai appris à vous différencier.
Oh, mais quand même, moi je trouvais ça rigolo.
C'est comme les jumeaux drôle. Qu'on connaît depuis un bon moment.
C'est vrai, hein, quand même. Comment vas-tu, Maxime?
Très bien, vous?
Oui, très bien. Est-ce que tu es revenue à la maison? Hein? Parce que tu t'es promenée pas mal dernièrement.
Oui, ben je dirais que je suis encore sur la trotte, bon. Mais ça va. Mais écoute, j'expérimente moi-même les activités avant de vous les ramener à Canal M. Ben, hein, très... C'est vraiment mon travail à cœur.
Exactement, exactement. Et tu nous amènes trotter avec toi où aujourd'hui?
Oui, ben d'abord, je vais commencer par une activité qui se passe à Montréal au mois de septembre. Oh. Donc, je sais qu'on est encore à la mi-août, mais les programmations estivales commencent à baisser tranquillement et on annonce les programmations automnales.
Ben, les fournitures scolaires sont déjà dans les magasins, les sous d'hiver s'en viennent, c'est le temps,
oui,
on est là.
Voilà, il faut y faire face ensemble et être forte. Alors, je vous parle en fait de l'exposition WordPress Photo qui présente les photographies gagnantes de la plus prestigieuse compétition professionnelle au monde. Donc, environnement, conflits internationaux, sport, politique, quels que soient les sujets, les photos sont toujours très impressionnantes, parfois même troublantes. On le sait que dans les dernières années, ça a beaucoup été influencé et teinté par la crise des migrants. Et en 2018, c'est 4500 photographes de 125 pays qui ont soumis un total de 73 000 images. Et la 13e édition va nous présenter, évidemment, la crème de la crème. Donc, ça a lieu au marché Bon Secours du 29 août au 30 septembre. Et c'est à une visite particulière que je veux vous convier le vendredi 7 septembre de 9h à midi. Alors, c'est le RAM, le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain qui propose une visite adaptée du WordPress Photo. Donc, les participants seront jumelés avec un bénévole qui va les accompagner à leur rythme en décrivant dans leurs mots et leur sensibilité les photos exposées. La visite va être suivie d'une rencontre causerie avec Alexandre Champagne, qui est photographe et le porte-parole de l'exposition cette année. Et la raison pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'on doit s'inscrire auprès du RAM avant le mercredi 29 août. Et les places sont limitées, donc je voulais en parler rapidement pour donner la chance au plus de gens possible de pouvoir faire cette visite adaptée du WordPress Photo en septembre.
C'est une très, très bonne idée. 13 septembre, 9h à midi. Saint-Paul est dans notre itinéraire également.
Exactement. On va au Symposium d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Donc, c'est une tradition depuis 36 ans dans la région. Chaque année, pendant un mois, 12 artistes issus de différentes générations et disciplines sont invités à créer une œuvre à la vue du public et autour d'un thème. Donc, autour de ces prestations viennent s'ajouter des conférences, des présentations d'artistes et des projections en lien avec le thème. Et cette année, le thème du symposium, c'est l'art et le politique. Donc, c'est Marc Séguin qui est le porte-parole. Déjà depuis 2014, il est le porte-parole de l'événement. Et il invitait les artistes, justement, à se mettre ensemble et à dénoncer et combattre le vide. Et en rappelant que c'est un privilège de pouvoir être exposé, être en contact avec le public pour établir des dialogues autour de l'art. Alors, il y a des sujets comme l'identité, la diversité, le territoire, le colonialisme, l'influence des médias et des réseaux sociaux, le pouvoir, la consommation, la panique, les préoccupations environnementales qui sont abordées. Alors, on voit que c'est vraiment actuel, en fait, les enjeux que les artistes abordent. Et même si on peut penser qu'on peut tomber dans le cynisme ambiant, contribuer, il y a toujours une note, en fait, d'espoir, parce qu'on se situe dans la résistance, dans la réflexion autour de ces enjeux-là. Et j'ai relevé quelques activités parallèles qui se passent. Donc, demain, le 18 août, alors, il y a une conférence de Aydin Matlabi, photographe humanitaire, qui présente son exposition « La voix des marginalisés ». Le suivi énormément de gens, entre autres, dans la crise des migrants, mais aussi des conflits armés un peu partout autour du globe. Le 23 août, il y a plusieurs films engagés qui ont été projetés durant l'événement. On pense à Inch'Allah de Anaïs Barbeau-Lavalette et Les Ordres de Michel Brault. Et la semaine prochaine, c'est le long-métrage d'animation Persepolis qui va être présenté. Alors, qui se situe à Téhéran sur fond de guerre Irak-Iran dans les années 70. Puis se transfère en Autriche où est-ce que la réalisatrice, c'est un peu autobiographique, raconte ses idées de révolution et politique et personnelle. Et le 25 août, c'est le film de Kim Bonsawin, Ce silence qui tue, qui sera projeté. Et en terminant pour le symposium, ces jours-ci, c'est l'atelier ouvert de Gabriel Lajoie-Bergeron qu'on peut visiter. Chaque année, il y a justement un atelier ouvert qui est présenté, donc un artiste qui est, si on veut, en résidence au symposium. Et elle s'intéresse aux mythes et aux rituels entourant les figures de la sorcière. Et donc, comment ces figures représentent aujourd'hui des éléments subversifs de la société et de la contre-culture. Alors, plein de pistes de réflexion, vraiment, à Baie-Saint-Paul, en plus, un environnement enchanteur. Donc, on y va, on va voir un peu d'art engagé de ce côté-là.
Et symposium est actuellement en cours jusqu'au... Est-ce que le 25 août était la dernière date à laquelle on pouvait s'y présenter?
C'est jusqu'au 26 août.
26.
Donc, c'est ça, le 25 étant la dernière atelier présentée en soi, en fait, avec une rencontre d'artistes.
Génial. Et niveau concert, on a Sur le toit d'Ubisoft qui nous est proposé.
Oui, c'est ça, série de concerts chaque été qui est très couru, réalisée par l'étiquette indépendante Bon Sound. Et alors, comme son nom l'indique très clairement, c'est un concert sur le toit d'Ubisoft, donc à Montréal. C'est la 9e année que c'est organisé au 6e étage, donc du bloc du Myland, qui est assez connu, avec comme toile de fond une vue imprenable sur le Mont-Royal. Dans les dernières années, on a vu avec podcast Jason Bajan, Jean-Michel Blais, Cœur de Pirate, Safia Nolin. Et là, le 25 août, c'est le Canadien Andy Schauf qui fait de la pop folk. Et en première partie, le Janois Dave Scholes qui a lancé un album au mois d'avril cette année. Et le 8 septembre, c'est Philippe Braque qui est là, qui n'a plus besoin de présentation, évidemment. Et Laura Sauvage, qui est le projet solo de l'auteur-compositrice-interprète Viviane Roy, membre du groupe acadien Les Hey Babies, qui fait sa première partie. Alors, vraiment, c'est une place limitée parce que c'est quand même un toit. Et donc, il faut réserver rapidement. Et pour les personnes à mobilité réduite, on peut accéder au toit avec le monte-charge. Il suffit d'en faire la demande au gardien de sécurité à l'entrée.
Ça, c'est le fun, les monts de charge. On a toujours beaucoup de plaisir. On ne sait jamais si on va sortir de là. Je ne sais pas si tu as cette impression-là. Moi, oui.
ça dépend des monts de
charge. Ça dépend lesquels.
Il y en a qui sont plus techno que d'autres.
Ouais,
on fait avec. Et
finalement, on a un sujet surprise. Là, tu as quelque chose que tu ne nous as pas communiqué et qu'on va tous découvrir ensemble, Maxime.
Exactement. Donc, il y a toujours toujours des nouvelles activités, des nouveaux concerts qui s'ajoutent. Hein? Ça bouge beaucoup. Et là, toujours dans cette thématique un peu concert dans des lieux inusités, je vous parle de la série « Les arts s'invitent au jardin ». Alors, c'est des artistes qui proposent au public une version intimiste de leur répertoire pour mieux habiter la nature à travers les arts. Et ça se passe les dimanches après-midi au Jardin botanique de Montréal. Les concerts ont lieu à 14h face à la roseraie. Et donc, ce dimanche, le 19 août, c'est Émile Bilodeau qui prend place, qui sera en performance. Le 26 août, c'est Bia et Mamzelle Ruiz qui sont en plateau double. Et le 2 septembre, on termine cette saison avec Pierre Flynn, donc qui sera en concert. Et après les concerts, je vous invite vraiment à visiter le jardin botanique, particulièrement le jardin des Premières Nations, où jusqu'au 26 août, des animateurs autochtones présentent différentes activités en lien avec notre relation au territoire. Et donc, ce week-end, c'est une dégustation de tisane à partir de racines, de plantes sauvages et des plantes qu'on trouve évidemment au jardin botanique. Donc voilà, un petit combo tisane et Émile Bilodeau. Je me suis dit que ça faisait un bon dimanche.
Ça me plaît vraiment beaucoup.
Maxime, t'as mentionné Jason Bajada tout à l'heure quand tu parlais du Ubisoft. Et on en parlait, toi et moi, en privé, mais je pense qu'on peut le partager avec les gens. On a fait une belle découverte de balado-diffusion.
Oui, toi, Christiane, qui est une amatrice de podcast invétérée, moi, je l'ai découvert la semaine dernière, Jason Bajada qui fait un podcast, Bajada Discussions, et reçoit, c'est pas chaque semaine, c'est pas chaque deux semaines, c'est plutôt, je pense,
quand ça y tente, ouais, c'est ça?
C'est ça. Quand ça donne, il va publier des discussions avec des artistes. Alors, à la fois du côté musical, évidemment, mais aussi des designers, des artistes visuels. Donc, en fait, les gens, je pense qu'ils l'intéressent et dont ils ont envie de connaître davantage leur démarche, leur art. Donc, il y a eu Pony dans les dernières semaines. Il y a eu... c'est pas Michel Brault que j'entends.
Moi, j'en ai écouté une avec Fanny Bloom, qui était passionnant, oui. Avec Jean-Michel Blais aussi. C'est dans son divan, dans son appartement, son chat qui s'appelle Bill Murray saute sur les genoux de ses invités, les griffes. C'est vraiment... Et je pense que ça fait dire aux artistes des choses qu'ils raconteraient peut-être pas normalement en contexte standard d'interview.
Et on rappelle qu'on peut le voir
en fait,
concert.
Vous pouvez... Non, mais lui, il l'avait déjà fait.
Ah.
C'est dans les exemples de ceux qui l'avaient déjà fait. Mais pour ce qui est du balado, vous pouvez vous abonner via iTunes et la plupart des plateformes.
Oui, et je disais que ça s'appelait Bajada Discussion, c'est Bajada Dialogue.
Oui, donc, ou Dialogues, désolé. Parce que dépendamment de l'artiste, ça peut être en français ou en anglais. Il est parfaitement bilingue et je pense que pour faciliter justement la confidence, et c'est pour ça qu'il a choisi le podcast, en fait, pour ne pas avoir cette contrainte-là, dépendamment de l'artiste, ça peut se passer en anglais ou en français.
Tout à fait, puis je le disais, il y a eu justement Jay du Temple aussi qui est passé, Hubert Lenoir, et la designer, c'était Elissa C. Russell, une designer montréalaise, donc et c'est Philippe Brault, c'est là donc que je cherchais.
Oui,
donc,
bon.
J'étais mélangée avec le réalisateur Brault, mais Philippe Brault, qui est un réalisateur de disques, qui a passé aussi, donc vraiment à surveiller incessamment la prochaine. Le dernier podcast a été publié le 3 août. On présume qu'on pourra en avoir une bientôt.
Alors, c'est complet, Maxime. On a même une activité que les gens peuvent faire chez eux.
C'est ce que j'allais dire. Merci, Maxime, parce qu'aujourd'hui, tu nous fais sortir, mais aussi, tu nous permets de rester à la maison. Comme là, aujourd'hui, il pleut et on peut
exactement.
Quand même faire une nouvelle activité. Merci infiniment.
C'est un grand plaisir. À bientôt.
À bientôt. À bientôt. En l'honneur du IKEA qui va ouvrir ses portes à Québec mercredi prochain, le 22 août, c'est quand même un grand moment. C'est 280 emplois qui vont être créés dans le secteur de Québec. IKEA sera situé dans le secteur, lui, de Sainte-Foy. Et j'en profite, parce que tu sais que j'aime beaucoup parler d'écologie, j'en profite pour vous informer qu'IKEA sort tous ses sacs à usage unique. C'est-à-dire qu'en juin dernier, le magasin annonçait qu'il éliminait les sacs de plastique de leurs 63 succursales à travers le monde, tant côté magasin que côté restaurant. Et non seulement ça, mais d'ici 2020, IKEA veut bannir toutes les pailles de plastique, les tasses, les ustensiles, jusqu'aux sacs poubelles que seuls les employés utilisent et voient. Une vraie implication dans la lutte contre ce matériau qui est la cible mondiale côté environnement en 2018. L'entreprise va également investir 1,7 milliard de dollars pour devenir dépendant de l'énergie 100% renouvelable dans le même délai. La compagnie a déjà investi 450 millions pour venir en aide aux régions affectées par les changements climatiques. Ils vendent aussi des panneaux solaires. On est donc loin de la simple bonne conscience ici. Je trouve ça absolument fabuleux. Et je rappelle qu'à Québec, c'est mercredi prochain qu'on va pouvoir aller magasiner nos meubles montables. Oui, Emmanuel Robitaille, toujours en compagnie de Christiane Campagna pour la prochaine demi-heure de cette édition d'Aime l'été du 17 août 2018. On est vendredi et on en profite donc avec l'animateur de l'émission Tradosphère, Marc Bolduc. On va parler musique traditionnelle. On se fait plaisir, c'est vendredi, c'est toujours le fun quand même. Mais on va voyager au Yukon.
Oui.
On va regarder les activités qui nous attendent au Yukon avec Hélène Michaud.
Dans notre bonne ville, il y a de bons médecins qui soignent les malades et leur font du bien. L'autre jour, un jeune homme prise une mauvaise toux s'en alla de suite voir le docteur Zou. Alors ce docteur lui dit aussitôt: j'ai ici, monsieur, un très bon sirop. Prenez-en chaque jour, vous l'aimerez beaucoup. Le jeune homme est mort dès le premier coup.
Et il ne toussa jamais plus du tout.
Non, plus jamais. Puis c'est le docteur Z, vous le connaissez bien. Celui-là aussi, c'est un bon médecin. Un vieillard lui dit: je ne me tiens plus debout, j'ai toujours les jambes comme du fromage. Alors le docteur l'ayant entendu, savez-vous, mes vieux, ce qu'il a répondu? Si vous ne pouvez plus vous tenir debout, prenez donc une chaise puis asseyez-vous.
Des docteurs comme ça, il y en a pas beaucoup.
Oh non. Et puis vient ensuite le docteur Rixo. Dans l'ordre de la médecine, il n'est pas manchot. Un jeune homme lui dit: ça ne va pas très bien, j'ai toujours des gaz dans les intestins. Alors le docteur l'ayant entendu, savez-vous, mes vieux, ce qu'il a répondu? Si les gaz vous rongent ainsi sans pitié, je m'en vais vous poser l'électricité.
Le pauvre jeune homme est resté figé.
Ben, t'sais. Un autre docteur appelé Zélé. Elle dit à son gendre: lorsque je vais le voir, il me traite d'animal et vieillant de noir. Alors le docteur, après avoir vu qu'elle était nerveuse, lui a répondu: votre tempérament est pas trop nerveux, restez donc chez vous et ça vaudra mieux.
La bonne femme alors en resta toute bleue.
Ben voyons donc. Par un beau matin, le maire va pas bien, va au cabinet du docteur Allier. Qu'avez-vous, monsieur, qui vous donne l'air d'un hibou? Je crois que j'ai un petit mal dans le cou. Le médecin ainsi, sans plus tarder, lui dit: va falloir le corriger. Lui déboîte le cou, lui coupe le genou et met le genou à la place du cou.
Le maire pouvait plus dire non du tout.
Oh, il faisait pas très bien non plus.
C'était Les chauffeurs à pied avec la pièce Les bons docteurs, tirée de l'album Déjeuner canadien, déjà 2004, 12 ans. Et une finale bien représentative de ce groupe dont on va vous parler dans quelques instants. Bon, parce que on a décidé au mois d'août de faire des chroniques basées sur le trad. Il y en aura deux avec Marc Bolduc, que je vous présente dans un moment, et deux avec Catherine Planet, qui était là la semaine dernière, et qui va revenir le 31. Et puis, ça sert justement à combattre notamment ce préjugé voulant que la musique traditionnelle soit bonne seulement à certains temps de l'année.
Parce que on va le dire qu'à un moment donné où j'ai fait l'erreur, moi, je suis complètement néophyte, et j'ai dit à Christiane, « Christiane, toi qui es fan de musique traditionnelle, tu dois vraiment être contente pendant le temps des fêtes. » Et ses yeux étaient outrés
de mon commentaire néophyte total. Oui. Et on écoutait à ce moment-là Le Vent du Nord, qui est quand même un des groupes les plus médiatisés, je dirais, dans les plus connus du grand public. Il y a aussi Les Charbonniers de l'Enfer, Nicolas Pellerin, Les Grands Hurleurs. Aujourd'hui, on a décidé de vous faire découvrir deux formations qui ont déjà une longue route, qui sont moins connues du grand public et qui sont peut-être un petit peu plus échevelées, un petit peu plus rugueux, barbus. Ben, y a beaucoup de barbus, d'ailleurs, dans ces groupes-là, dont un qui est dans les deux groupes, mentionnons-le. Alors, on va commencer par vous parler des Chauffeurs à pied et ensuite Réveillon, mais je vous présente tout d'abord Marc Bolduc, qui est animateur de l'émission Tradosphère, qui a été longtemps à CIBL, qui est aujourd'hui à CKVL.
Oui, elle est vendredi, donc de 20h à 22h, et puis ça passe aussi.
Oui, c'est rediffusé à Canal M. Cette année, c'était juste en ce moment, c'est encore le mardi à 17h, et ce sera plutôt le samedi à compter de la saison d'automne. Alors...
bienvenue, Marc.
Oui, merci.
C'est ça, parce que Marc, on l'entend à Canal M depuis un bout, mais c'est sa première visite.
Oui, on commence toujours quelque part. Alors ici, c'est ma première visite, j'en suis très honoré d'ailleurs.
Alors, on va passer tout de suite au premier groupe, les Chauffeurs à pied, un groupe de Québec, comme le IKEA qui va ouvrir la semaine prochaine.
Le 22 août prochain.
Tout à fait. Et puis, les adjectifs qui peuvent les qualifier sont souvent hors normes, dans la mesure où c'est atypique, iconoclaste, irrévérencieux. C'est un groupe qui est composé de membres qui font autre chose dans la vie qu'être musicien, dans la plupart des cas, enseignants, mettons, au conservatoire. Antoine Gauthier est directeur du Conseil québécois du patrimoine vivant. Il va dans des congrès internationaux à l'UNESCO, des choses comme ça. Et... comme en corollaire, font aussi de la musique. Et ils ont ce parti pris de sortir des normes, en tout cas de combattre les clichés. Ils demeurent dans la tradition, la mesure, la facture de ce qu'ils rendent est traditionnelle, mais les arrangements, entre autres, il y a du cor français dans certaines pièces. On va aller chercher des codes comme on l'a fait à la Marseillaise à la fin de cette pièce-là. On va faire des incursions de Star Wars. Il y a une pièce dans laquelle il y a un répartiteur de taxi qui intervient. Tout ça pour non seulement jouer avec la forme, mais aussi montrer un côté ou donner un caractère contemporain aux pièces qui sont interprétées. Parce que le folklore, il ne faut pas oublier, c'est savoir du peuple, mais c'est souvent la musique populaire de son contemporain à la période où il les produit. Et quand il est repris, ce contenu-là, bien, il peut s'adapter. Et des fois, on est surpris. On dit « Ah, ben, coudonc, c'est vieux, puis ça passe bien encore en 2018. » Bien, c'est parce que simplement, c'était de son époque. Il y a des choses qui vieillissent même, la plupart vieillissent très bien.
Et quand ils font dans la composition, parce que la plupart des artistes traditionnels contemporains en instrumental font de la composition, ils ont toujours des titres qui sont un clin d'œil à leur époque.
Oui, tout à fait. Il y a un rythme du logiciel libre, entre autres, des choses comme ça. Donc, oui, un clin d'œil, soit par rapport à l'actualité. Puis c'est vrai que c'est difficile de nommer des pièces parce que, bon, à un moment donné, il faut trouver quelque chose. Alors, eux, ils vont bien sûr. Antoine Gauthier est un poète aussi, donc il a fait paraître un recueil de poésie récemment. Donc, ça permet de sortir des sentiers battus. Puis, ils ne se revendiquent pas non plus d'être « Ah, nous sommes les précurseurs, nous sommes à l'avant-scène ». Ils aiment bien jouer ce rôle un peu de mauvais garçon, mais en étant tout à fait sympathique, bien sûr.
Une chose, disons que s'il y a une personne à qui ils donnent des frissons, c'est au Sandman, parce que chacun des membres des Chauffeurs à pied joue de plusieurs instruments.
Oui, Louis-Simon Lemieux, dont on va parler, puisqu'il est dans les deux groupes dont on parle aujourd'hui, c'est un excellent guitariste, un excellent harmoniciste, il a commencé à 3 ans, et violonneux, en plus d'être podorythmique, chanteur, tout vous voyez genre, là. Ça, c'est un parmi les membres du groupe, alors ça donne une bonne idée de l'étendue du talent de cette formation.
Et dans les dernières années, on les a beaucoup vus s'impliquer pour faire de la sensibilisation en ce qui concerne l'environnement et particulièrement les rivières.
Oui, ils ont fait une expédition qui a rempli l'exposition. Et d'ailleurs, ça rejoint le groupe dont on va vous parler plus tard, parce qu'il y avait des œuvres de Jean-François Berthiaume qui étaient là. On faisait une exposition le long de la rivière Moisy, en faisant une traverse en canot, en prenant des photographies, des enregistrements, même que leur plus récent enregistrement de ces couteaux microscopiques, qui est un recueil à la fois de poésie et de chansons, a fait des prises de son directement près de la rivière Moisy avec les outardes qu'on entend dans le loin. Donc, pour éveiller justement une de ces dernières rivières sauvages du Nord. Donc, c'est un des exemples de leur implication.
Et ils vont fêter leur 20e anniversaire au Festival Estrade au mois d'octobre à Québec.
Oui. Alors, et bon, le spectacle, le salaire qui est déjà guichet fermé, il y avait 50 places. Je comprends pas trop. Oui, c'est ça. Il va y avoir une mise en marché.
On va demander une édition montréalaise.
Oui, alors.
une tournée canadienne. On va tout de suite passer à l'autre groupe qui est la formation Réveillon, qui existe aussi depuis un bon moment.
Oui, bien en fait, eux, ils ont commencé autour de la formation des Pieds Légers de Laval, parce que, bon, deux des membres en sont issus, David et Jean-François Bertillon, mais en plus, le violoneux Richard Forêt jouait pour cette troupe-là. Et donc, c'est un band de banlieue. Et qui s'en revendique.
Hein?
Oui, et qui se revendique de ne pas faire de la musique du terroir, mais plutôt de la musique qui terrasse. les frères Bertillon sont assez particuliers parce que, bon, David a une voix... lui, ça le colle, le mot atypique. Il sonne comme un vieux 78 tours en partant.
Il a une voix polarisante aussi.
Oui.
Il y a des gens
comme
moi qui l'adorent, il y a des gens qui l'aiment moins. Ouais.
Oui,
c'est ça.
C'est pas passe-partout, ben.
Non. Ben, c'est ça qu'il le sait, puis il est capable de maintenant de jouer à l'intérieur de ce registre. Je pense qu'il a travaillé sa voix. Mais dans un atelier de chansons, par exemple, c'est toujours celui qui détonne par rapport aux autres.
Mais ça a beaucoup de personnalité.
Tout à fait. Et c'est d'ailleurs un choix qu'ils font en spectacle comme vont mettre l'accent sur soit les textes, le côté... c'est un des groupes qui fait souvent des chansons très tristes. Ils commencent un album, au lieu d'être festif, ils commencent avec une complainte. C'est vraiment des choix éditoriaux.
Pour pas être là où on attend le trad aussi, ouais. Souvent.
Ils jouent beaucoup avec la structure, mais eux, c'est plus dans la façon de faire. Commencer par une pièce instrumentale, terminer par la chanson, ce qui n'est pas une norme dans la tradition, finit toujours par l'instrumental. De jouer avec toutes sortes de choses comme ça, c'est une de leurs marques de commerce.
Et une caractéristique du groupe Réveillon, c'est qu'on les trouve aussi en contexte de danse, puisque Jean-François, un des membres fondateurs, est aussi un caleur.
Un caleur et un gigueur. Alors, puis dans le spectacle, il inclut ça. Puis c'est l'image du, s'il va en Europe, du barbu bûcheron qui va danser. Là.
Mérou.
Et c'est ça, artiste
visuel.
Excusez-moi,
je lèverai ma main ici. Oui. On entend quoi par un caleur?
Ah oui, voilà. Caleur, c'est quand on va à une soirée, une veillée de danse traditionnelle.
Il y a quelqu'un qui crie...
C'est celui qui dirige les danseurs. Ah. Donc, il va... Bon, maintenant, de nos jours aussi, on explique les figures de la danse avant de partir la musique. Et quand la musique part, tout le long, il y a le caleur qui vous dit quoi faire. Premier couple, aller au deuxième couple.
Ah, oh, ben oui!
Voilà, tout au long de la danse. Alors, ça rend cette danse-là très accessible. C'est pas de la danse que vous suivez un cours pour aller faire un spectacle. C'est de la danse participative pour tout le monde, tous les âges.
C'est un meneur de danse. Ce serait le meilleur terme français pour la chose. Mais le call, puis d'ailleurs, s'est amusé avec ça, Jean-François Bertillon, parce que quand ils ont fait un album, les deux frères ensemble, il y a une pièce qui s'appelle « Le cri du calleur ». Et il hurle tout au long de la pièce, le call, comme s'il callait l'orignal à la limite. Là. Et c'est quelque chose encore là d'irrévérencieux pour montrer, bon, ça se fait pas, mais lui, c'est amusé à le faire. Alors, c'est plaisant d'avoir des gens qui justement sortent des cadres établis parce que ça permet de relativiser puis de pas tomber dans le cliché qui est malheureusement...
Mais ce que je trouve très ironique, c'est que le groupe s'appelle Réveillon, si je ne me trompe pas.
C'est pas Réveillon dans le sens du temps des fêtes, c'est dans le sens de réveillons-nous et revivons ces traditions-là.
Mais moi, je pense qu'il y a quand même un petit jeu de mots, parce que je veux dire, on va y penser, c'est sûr, ça serait naïf, là.
C'est aussi Réveillons, en fait. Recommençons à faire des veillées, à veiller, à faire les arts traditionnels.
Oh oui, leur premier album s'appelait Kikekwadonou, c'était juste pour vous montrer.
Kikekwadonou!
Alors, pour les découvrir, on vous invite autant les chauffeurs à pied que Réveillon. Ils ont chacun des pages Facebook. À partir de là, vous pourrez aller vers leur site web, tout ça. Merci beaucoup, Marc.
Là, plaisir. On
s'en va vers une pièce de Réveillon. Puis pour la présenter, tendez l'oreille. Dans cette pièce-là, vous avez de la guimbarde, cet instrument qui se joue avec la bouche, qu'on appelait aussi des fois la bombarde, et du boran, du tambour irlandais. Et les deux ensemble, ça crée un effet techno. On a parlé de danse de 7 carrés il y a quelques instants, mais vous pouvez danser là-dessus comme vous danseriez sur n'importe quelle pièce techno. Moi, je ne peux pas m'empêcher en spectacle et ça, je ne pourrais probablement pas. Oui, absolument.
Elle fait du body surfing aussi.
C'est vrai?
Alors, je l'ai promis à Emmanuel, je vais danser en studio.
Je l'attends fermement.
Pendant la pièce, ça s'appelle Farewell Montebello.
Do it.
Alors, c'était la formation Réveillon avec la pièce Farewell Montebello, qui est tirée de l'album Malbrook s'en va en guerre, un album de 2008 de la formation Réveillon dont on vous a parlé avec Marc Bolduc.
Et si vous voulez réécouter, réentendre les chroniqueurs, les chroniques, les chansons qu'on passe à l'émission M l'été et dans toute la programmation en fait du Canal M, vous pouvez toujours vous rendre tous les jours, quand vous voulez, à votre grand plaisir, pour écouter les balados diffusion de toutes les émissions sur le canalm.vusezvoix.com. Et j'en profite pour rappeler que le Canal M est diffusé pan-canadien. On est à travers le Canada. Donc, si vous êtes résident ailleurs au Canada qu'au Québec, Canal M, c'est pour vous. Et pour ceux qui, oui, y résident, ou encore pour ceux qui voudraient aller faire une excursion pour aller découvrir notre grand pays, parce que c'est un immense pays, et Christiane et moi, on s'est avoué tantôt qu'on n'avait pas été beaucoup plus loin qu'en Ontario. Encore pas. Encore.
Jusqu'ici.
Il nous reste beaucoup de temps devant nous. C'est l'occasion de le faire parce qu'à chaque vendredi, on en profite pour le faire avec un chroniqueur ou une chroniqueuse qui se trouve ailleurs au Canada. Et c'est le cas aujourd'hui avec Hélène Michaud qui nous fait découvrir ce qui se passe au Yukon. Bonjour, Madame Michaud.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, vous?
Ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous informer sur ce qui se passe à Whitehorse au Yukon.
Bien, ça me fait grand plaisir. Puis en fait, je vous amène ailleurs. On va sortir de la capitale un petit peu. Moi, je veux vous parler de ce qui se passe à Dawson City.
Oui.
Donc, c'était l'ancienne capitale du Yukon il y a très, très longtemps. Donc, c'est une ville environ 6 heures au nord de Whitehorse. Mais en fin de semaine, il y a un grand festival qui se passe à Dawson. Donc, les Journées de la Découverte, Discovery Days, comme on les appelle ici. Alors, ça se passe du 16 au 20 août. Donc, ça a déjà commencé hier. Puis c'est un festival pour vraiment célébrer la ville de Dawson, puis son histoire particulière qui est fortement liée à la ruée vers l'or. Je pense que c'est beaucoup une image que les gens ont quand ils pensent au Yukon, on pense au Klondike, à la ruée vers l'or. Puis à Dawson, c'est vraiment, on est encore plongé dans ce milieu-là, donc la ville a vraiment gardé un caractère qui est directement tiré de l'époque. Donc il y a encore des vieux bâtiments, des vieux trottoirs en bois, on a des rues en terre battue. Et les gens sont encore bien fans du burlesque et des danseuses de cancan. Donc, on arrive vraiment dans un autre univers quand on arrive à Dawson.
Et on peut, c'est une visite ou on peut même peut-être vivre une expérience qui pourrait ressembler à la ruée vers l'or. Qu'est-ce qui nous attend là-bas?
Oh, il y a beaucoup de choses. Donc, pendant les Journées de la Découverte, il y a énormément d'activités différentes. Donc, ça va passer de la culture au sport. Il y a un mud bog. Donc, en fait, c'est un tas de pick-up et d'autres véhicules font des courses dans un gros tas de boue. Donc, on a vraiment de tout. Mais la culture prend vraiment beaucoup de place à Dawson et les arts. Donc, c'est ça à chaque événement. Mais encore plus particulièrement pendant les Journées de la Découverte. Donc, il va notamment avoir une visite guidée littéraire qui met en vedette différents écrits d'auteurs bien connus comme Robert Service, qui avait écrit La Crémation de Sam McGee, qui est un conte très, très populaire ici au Yukon, Jack London, entre autres. Donc, plusieurs auteurs qui ont passé une partie de leur vie au Klondike, qui l'ont célébré dans leurs œuvres. Donc, une visite en ville où les gens vont réciter des écrits, parler un peu de l'histoire de ces auteurs-là. Tout au long de la fin de semaine, on va aussi retrouver le Riverside Arts Festival. Donc, il met en vedette de nombreux artistes locaux et on en a énormément au Yukon, dans tous les coins du territoire. Donc, il y a des expositions, des installations un peu partout en ville. On peut même participer à des ateliers si on a un petit côté artistique. Il y a un tournoi de balle, un tournoi de poker. Alors, c'est vraiment difficile de vous nommer tout ce qu'il y a. C'est un festival qui dure pendant 4 jours et qui est vraiment mis en place pour célébrer la première découverte d'or à Dawson. Donc, ça s'est passé le 16 août 1896. Et c'est ça qui a débuté une des plus grandes ruées vers l'or du monde. Donc, on a plus de 100 000 personnes qui sont venues au Klondike à partir de août 1896 pour essayer de devenir riche en trouvant des pépites dans nos cours d'eau.
Et on s'en rappelle pendant les Journées des Découvertes qui ça bat son plein depuis hier. Est-ce qu'il y a un site web où on pourrait aller consulter toute la programmation? Parce que là, on sait que c'est pour les artistes, les sportifs, c'est ludique, beaucoup, beaucoup de choses.
Oui, certainement. Je suis désolée, je n'ai pas l'adresse devant moi, mais si vous allez...
Mais si on tape « Journée des découvertes »,
notre ami Google
Discovery Days, il y a plus d'informations en anglais, malheureusement, mais tout l'horaire est là, et si ça vous donne, ça vous fait rêver, vous avez le goût de venir au Yukon, c'est une belle inspiration pour l'année prochaine. On a encore le soleil d'été qui commence à diminuer, mais on a quand même des longues journées d'ensoleillement. À Whitehorse, le soleil se couche encore à 10 heures le soir. Donc, on a encore un petit peu d'été, puis on peut vivre un petit peu, pas tout à fait le soleil de minuit, mais presque.
Bien, comment, en tout cas, ça dépasse largement tout ce qu'on a connu du soleil de soirée, nous autres ici au Québec. Clairement.
Ah, c'est un choc. J'étais dans l'Est récemment, puis le soleil qui se couche à 8 heures, ça fait un petit choc quand même. Là. On n'est pas prêt qu'on habite au Yukon. C'est un des meilleurs éléments de l'été, je vous dirais, là, le soleil qui ne se couche pas. Ça change une vie.
Effectivement, j'ai un ami qui avait été au Yukon, à Whitehorse, qui avait été dans le Nord. Il disait, c'est tellement étrange de voir des enfants jouer dehors à 1h du matin. Ça l'avait...
Ah oui, c'est...
Ça l'avait marqué.
Ça arrive constamment.
C'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres activités qui nous attendent, Mme Michaud?
Ben, si on retourne à Whitehorse, c'est une activité de la communauté francophone, le samedi 25 août, ça va se passer... à l'AFI, donc l'Association franco-yukonaise, ils ont un superbe centre de la francophonie au centre-ville de Whitehorse. Et à chaque année, vers la fin de l'été, donc cette année, le 25 août, il y a une épluchette de blé d'Inde pour permettre à la communauté de se rassembler puis de célébrer cet élément-là qui fait quand même une partie de la culture francophone à travers le pays. Au Québec, les épluchettes de blé d'Inde, on en a beaucoup. Alors, on reproduit un peu ça au Yukon. Puis c'est vraiment une belle opportunité. On a des artistes francophones locaux qui viennent faire des performances. Puis les gens se rassemblent pour manger un bon repas. C'est vraiment une belle activité. Puis ça nous permet de réaliser à quel point la communauté francophone est vibrante au Yukon. On est près de 1200 sur une population d'un peu plus de 30 000 au territoire. Donc c'est quand même un bon ratio. Puis on entend énormément de Français un peu partout, même à Dawson. À l'époque, la ruée vers l'or, Dawson était majoritairement francophone, en fait. Les choses ont changé beaucoup, mais on rencontre beaucoup de compatriotes francophones un peu partout au territoire.
Et on en profite, ça, c'est samedi le 25 août, l'épluchette de blé d'Inde. C'est de quelle heure à quelle heure? À quelle heure on peut être attendu? On doit réserver notre place? Ça coûte de l'argent?
Non, les gens peuvent acheter des billets sur place, puis c'est sur l'heure du dîner.
Génial. Donc, on se fait un petit début d'après-midi avec ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses à aller voir dans votre coin, Mme Michaud?
Oh, il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup,
moi, à venir. C'est vraiment dur, juste pour une chronique de quelques minutes, de vraiment vous partager à quel point le Yukon est un territoire extraordinaire. Moi, je suis venue m'installer ici un petit peu plus de 2 ans maintenant. C'était ma 6e visite quand je suis déménagée, donc je suis vraiment tombée en amour avec
le territoire. C'est vraiment un coup de cœur, ben oui.
Ah, certainement. Puis moi, j'invite les gens à venir juste pour découvrir les montagnes, les paysages extraordinaires qu'on a. Et puis franchement, même l'hiver, ça vaut la peine. Nos hivers sont moins rudes qu'on pourrait l'imaginer.
C'est vrai?
C'est un hiver très sec. Oui, donc si on est bien habillé, même si c'est moins 40, bien habillé, il n'y a aucun problème. C'est pas comme dans l'Est où c'est très, très humide et ça nous transperce jusqu'aux eaux. Il faut juste être bien habillé.
En tout cas, si on continue d'avoir les étés qu'on a ici, ça se peut qu'il y ait une migration nouvelle. Ah, ça va être la ruée vers le frais.
On vous invite, c'est tellement beau, vous ne voudrez plus jamais repartir.
Mais on vous croit, Madame Michaud. Donc, c'était les activités qui nous attendent au Yukon et à Dawson City pour les Journées de la découverte. On se rend sur Internet, on va voir toute la programmation. Et on n'oublie pas les pluchettes de blé d'Inde du 25 août prochain. Merci infiniment.
Ça fait plaisir. Au revoir.
Au revoir.
Eh bien, si on vous a parlé de trad tout à l'heure, une journée où vous pouvez, entre autres, entendre de la musique traditionnelle, c'est demain, 18 août, à Verdun, à la Maison Nivard de Saint-Dizier. Il y a des activités liées à l'époque de la Nouvelle-France, des animations pour toute la famille. Il y aura des musiques autochtones et traditionnelles, des animations historiques, des jeux anciens, parcours immersifs du voyageur, ce qui nous rappelle donc l'histoire du commerce de la fourrure. Et ça se passe donc demain à Verdun de 10h à 18h et je souligne particulièrement à 16h un spectacle de la formation Le Vent du Nord. Alors, je vous invite à aller faire un tour. Si vous êtes plus du genre musée, je voudrais vous rappeler que depuis le 3 juin 2018, vous avez accès gratuitement aux expositions de plusieurs musées québécois le premier dimanche de chaque mois. Allez sur les sites web des différents musées, vous allez en apprendre plus. Il y a aussi le mot-clic dimanche au musée, qui existe et musée, hashtag musée Québec, là, QC, pour faire rayonner vos musées, inviter vos proches. Les musées sont souvent des endroits accessibles aussi, en plus. Alors, c'est une occasion, peut-être la première fois qu'on va dans un musée, qu'on n'est pas certain de la dépense, tout ça, aller faire un premier tour le dimanche. Puis s'il y a une exposition qui vous passionne, puisque des fois, quand c'est gratuit, il y a plus de monde, on se pèle un petit peu plus sur les pieds.
C'est vrai.
Mais après ça, vous pouvez retourner parce que vous savez que ça vaut la peine.
Et on se laisse en ce vendredi avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités à faire pour cette fin de semaine et les deux prochaines semaines. Merci beaucoup, Christiane Campagnat.
Je vous en prie, comme le dit le slogan de notre émission, tout le monde dehors.
Merci Jean-François Roy à la régie. Merci Clotilde Seil à la réalisation. Bonne fin de semaine tout le monde et on se retrouve lundi prochain midi pour un autre Aime l'été.